Ici, il y a une atmosphère, une ambiance assez particulière parce qu'ici, ce sont seulement des professeurs de français. Nous avons des problèmes communs, nous avons des intérêts communs. Il y a ici un échange quand même. C'est le moyen de nous enrichir.
Des profs de français ensemble pendant 3 jours qui se racontent des histoires de profs de français. Non, ce n'est pas une secte, mais les journées professionnelles du français qui viennent de s'achever à Kiev en Ukraine. Et pour aller dénicher des francophones dans cette extrémité de l'Europe, il n'y avait pas mieux que Déborah Gros du service langue française de RFI. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Alors vous avez mis les bouts, on reparlera de cette expression un peu plus tard, à Kiev. Avec quelles attentes, quelles idées, peut-être des idées préconçues?
Alors j'avais déjà une petite idée quand même d'Ukraine, parce que j'avais eu l'occasion d'y aller il y a 12 ans, quand j'étais étudiante de français langue étrangère. J'avais fait un stage dans le sud de l'Ukraine, et déjà j'avais été marquée par le dynamisme et l'excellent niveau de français des profs que j'avais rencontrés là-bas, et qui n'avaient pas toujours eu l'occasion de voyager en France. Et là, pareil, cette fois j'y suis retournée avec la casquette RFI Savoir, et j'ai retrouvé la même passion pour le français de la part des profs.
Alors avant de présenter les autres invités de cette émission, il faut rappeler quand même un tout petit peu la situation linguistique d'Ukraine. On y parle bien sûr ukrainien, russe aussi, car le pays a été sous la domination soviétique, intégré à l'URSS pendant très longtemps. Et puis après viennent l'anglais, l'allemand, qui progressent considérablement, et le français.
Et le français qui perd du terrain, mais qui reste toujours enseigné en première, deuxième et troisième langue, avec 275 000 apprenants de français. La formation des profs de français langue étrangère en Ukraine se développe beaucoup. Et il y a des indicateurs de ce dynamisme. Par exemple, il y a 12 universités ukrainiennes qui font maintenant partie de l'agence universitaire francophone, l'AUF. Et c'est un chiffre qui a doublé en quelques années.
Alors, dans ce contexte, pendant ces journées professionnelles, les participants ont pu échanger des expériences entre eux et rencontrer des personnalités, notamment l'écrivain Éric Pessan. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez encore hier à Kiev et vous êtes rentré directement à Nantes où vous vivez, c'est pour ça que vous êtes au téléphone. De quel intérêt vous pouvez témoigner pour la culture et la langue française dans ce pays de presque 45 millions d'habitants ?
C'est un pays où la plupart des profs de français que j'ai pu rencontrer m'ont dit qu'elles avaient commencé à enseigner le français parce que par amour de la littérature française. Donc ça veut dire qu'il y a un très très grand intérêt vis-à-vis de la France, dans ses aspects culturels. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que les gens qui enseignent le français, qui sont intéressés par le français, viennent pas au français pour des raisons de commerce, pas vraiment non plus peut-être pour des raisons de voyage, c'est toujours agréable de venir voir la France, mais moi j'ai senti un très très grand intérêt culturel, la littérature, le cinéma, les arts français.
Donc l'écrivain que vous êtes avait toute sa place et vous avez présenté aux profs de français votre projet de classe numérique, de classe culturelle numérique. Vous nous dites ce que c'est ?
Oui, c'est très simple, c'est un projet qui a été institué par l'Institut français, qui a couru sur l'ensemble de notre année scolaire, qui correspondait à peu près à certaines années scolaires de certains pays. En Ukraine, c'était parfait. Et ça a consisté à faire écrire 10 classes sur 9 pays et 5 continents, à travers un site internet dédié. Donc voilà, je postais des consignes, et les classes, les unes après les autres, répondaient à ces consignes, sur lesquelles je répondais à nouveau, sur lesquelles les gens pouvaient aussi se lire et se répondre. Et tout au long de cette année scolaire qui vient de s'achever, les Ukrainiens ont travaillé avec les Japonais, avec les Allemands, avec les Néo-Zélandais et ainsi de suite.
Donc voilà, c'est le premier atelier d'écriture internationale en fait.
C'est le premier que je mène, j'imagine qu'il y a bien dû avoir des choses comme ça un petit peu partout. C'est le premier que met en place l'Institut français et c'est en tout cas le premier que je mène. Et c'est une grande chance d'avoir le monde entier comme terrain de jeu pour valoriser la littérature.
Alors on reviendra plus en détail sur ce projet, mais à Kiev vous étiez accompagné de Marie-Charlotte Baudour qui s'occupe de Culture Tech à l'Institut français. Bonjour.
Bonjour.
Et là aussi, il faut préciser ce qu'est Culture Tech, c'est quoi une méga bibliothèque?
Culture Tech, c'est effectivement une méga médiathèque numérique qui existe depuis un peu plus de 7 ans et qui est développée par l'Institut français, mise à disposition du réseau culturel français à l'étranger. Et c'est une plateforme qui propose aux francophones, aux francophiles et aux apprenants de français et en français un environnement culturel francophone avec des livres, de la musique, de la presse numérique.
C'est ouvert à tous les particuliers ou c'est seulement pour les instituts, pour les bibliothèques de par le monde ?
C'est ouvert, l'accès est ouvert aux membres des instituts et des alliances françaises à l'étranger.
Donc je suis à Bamako, il faut que je sois membre de l'Institut français de Bamako pour avoir accès à cette médiathèque.
Ou alors avoir passé un partenariat avec le réseau culturel français à l'étranger, oui.
Combien de titres ?
Un peu plus de 200 000.
200 000 ?
Oui.
Ah oui, c'est pas une petite affaire.
Non.
Et vous proposez aussi des bandes dessinées et des disques.
Des bandes dessinées, oui. Un peu plus de 300 et la musique contemporaine française francophone.
Donc ça va de Basse-Basse au Soulier Rouge, par exemple.
Indépendante, oui, Soulier Rouge, oui.
Donc le meilleur de la variété de la musique française. Cela dit, j'ai cru comprendre que c'est Patricia Cass qui fait fureur du côté des profs de français en Ukraine. C'est ce que vous m'avez raconté,
ah,
Déborah.
Ah oui, c'est un nom qui circule sur toutes les lèvres des profs qui ont finalement tout appris avec Patricia Cass.
Allez, Patricia.
Il y en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la que tu dans le lait, et un homme qui milite dans la rue avec tracts et banderoles. Il y en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Qui tape sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma machine. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit.
Patricia Cass sur RFI et dans De Vive Voix, mais oui, spéciale dédicace pour les professeurs de français ukrainiens qui participaient à ces journées professionnelles organisées par l'Institut français, l'ambassade de France en Ukraine et la Fédération internationale des profs de français.
Ici, nous sommes seulement des professeurs de français. Nous avons des problèmes communs, nous avons des intérêts communs. Il y a ici un échange quand même. C'est le moyen de nous enrichir.
Ça se fait pas souvent. Je peux même dire que c'est le premier événement qui était tellement chargé par les ateliers, par les informations, par le public aussi.
Bon, je viens de Minsk, je suis très impressionnée par l'organisation et les ateliers. Et je vais en parler à mes collègues biélorusses. Cette diversité du public nous a permis d'échanger nos expériences et de trouver quelque chose de nouveau pour chacun.
Et ces journées nous ont bien motivés, les professeurs. Ils ont organisé pour nous une vraie, vraie fête.
Je sens un peu fatiguée. Quand même, parce que il y a le programme, il y a les activités extra hors du programme, on peut dire. On se couche tard, on se lève tôt, mais c'était une magnifique idée, je pense.
Alors, je ne veux rien savoir sur les activités hors du programme, mais plus davantage sur le programme, Marie-Charlotte Baudour. Il faut préciser que ces journées pédagogiques, finalement, se déroulent un peu tout au long de l'année et un peu partout dans le monde. Il n'y a pas une spécialisation de l'Institut français sur Kiev.
Ah non, absolument. Les actions en faveur de la langue française et à destination des professeurs de français ont lieu à travers le monde tout au long de l'année, oui.
Éric Pesson, votre projet Classe culturelle numérique touche, vous nous l'avez dit, les 5 continents, 10 ou 9 pays. Comment a-t-il été choisi ?
C'est l'Institut français qui, lorsqu'il m'a, il m'a proposé de d'écrire le scénario de cet atelier, a cherché des classes. Alors, je pense que ce sont les réseaux diplomatiques qui se sont mis en route. Hein. L'information a circulé entre les professeurs. L'idée, quand même, c'était d'avoir les 5 continents présents, de pas oublier un continent et de pas avoir une surreprésentation d'un autre. Et on a fini par trouver un équilibre.
Vous avez parlé du Japon, de l'Allemagne.
Voilà, la République démocratique du Congo, l'Ukraine donc, le Canada, le Mexique, le Brésil. Et forcément, si je fais la liste comme ça, je vais en oublier. J'en ai forcément oublié. Mais
c'est
bon,
pas très grave.
Ça va
revenir. Donc, pendant un an, des élèves de classe de ces différents pays ont planché sur, vous appelez ça un scénario, une proposition, un thème que vous avez intitulé « Saisir le monde ».
Oui, ce qui m'intéressait, c'était cette idée de saisir le monde dans les deux sens du mot saisir, hein, le comprendre et puis l'empoigner à bras le corps. Je savais que j'aurais des apprenants avec des niveaux de français extrêmement différents, avec des âges extrêmement différents, que parfois j'aurais des jeunes gens, par exemple, en République démocratique du Congo, le groupe était très jeune. J'avais des adultes au Japon. Donc il fallait trouver un projet qui soit fédérateur et dans lequel chacun puisse rentrer indépendamment de son niveau de français.
Mais ils ont écrit quoi ? Ils ont écrit des nouvelles, un roman ?
Non, ils n'ont pas écrit ni des nouvelles ni des romans. D'abord, on a travaillé. On a commencé par raconter ce qu'on voyait par la fenêtre. Ça, c'était ma première proposition. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre ? Eh bien, en République démocratique du Congo, on ne voit pas exactement la même chose qu'en Nouvelle-Zélande. Voilà ce que j'avais oublié, la Nouvelle-Zélande. On a d'abord travaillé sur la description, ensuite sur l'étonnement. Je leur ai demandé de s'étonner, de sortir et que rien ne soit évident, de un peu dérouiller le regard, quitter la familiarité pour savoir qu'est-ce qui autour de nous peut être étrange. Et en fait voilà, donc il y a eu cinq propositions d'écriture comme ça qui venaient sur une proposition finale. Ce que j'ai demandé, c'est de raconter une journée du monde. On a raconté la journée du 20 mars dernier. C'était l'équinoxe du printemps. Ça, c'est bien, c'est international, l'équinoxe. C'est une position astrologique de la Terre par rapport au Soleil. C'est l'équinoxe du printemps. Et on a raconté, comme ça, pays par pays, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, après avoir appris donc à décrire, à s'étonner. Troisième consigne, c'était casser un peu les idées reçues. Quatrième consigne, c'était faire un récit. La cinquième consigne était une synthèse de l'ensemble de mes propositions.
Et on pourra lire tout cela à un moment ou à un autre ?
On peut lire tout ça déjà, puisque tout est mis en ligne, puisque l'Institut français est passé par une société qui met en place des solutions numériques pédagogiques qui s'appelle Open Digital Education. C'est très très long. Mais si on tape CCN, Classe culturelle numérique, Institut français, .opendigitaleducation.com, on peut lire l'ensemble de ce qui a été produit.
Alors dans des journées pédagogiques, vous avez présenté les uns les autres vos projets, mais il y avait aussi beaucoup de profs de français locaux qui ont fait partager leur initiative et apparemment le théâtre, faire du théâtre plutôt aux apprenants est souvent une méthode qui est assez sollicitée ou proposée, Déborah, dans ce type de rencontres pédagogiques.
Exactement, il y avait plusieurs interventions de professeurs ukrainiens autour des pratiques théâtrales dans la classe.
Je m'appelle Tatiana Bourmistenko. Je suis professeure de français à l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev. Il y a beaucoup de choses qui se font ces derniers temps parce qu'avant on était à l'école soviétique, donc c'était lire, traduire, raconter le texte. Là, on avance l'approche actionnelle et tout ça, ça nous ouvre des portes à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et en Ukraine, on aime beaucoup le français et les gens apprennent avec plaisir le français et participent à toutes sortes de projets pareils. Et l'ambassade de France, ils font énormément pour nous soutenir, pour soutenir des projets pareils. Donc on est très très contents avec ça.
Alors ce festival Vertep, en quoi il consiste ?
C'est un festival qu'on avait lancé l'année passée pour la première fois parce qu'on avait pensé qu'il y a peu d'activités qui se font sur l'école. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les universités mais pas pour les écoles. Et donc c'est un festival amateur. Les troupes de toute l'Ukraine viennent à Kiev pour présenter un petit spectacle en français qui va durer d'une quinzaine, vingtaine de minutes. On a eu un spectacle, par exemple, très intéressant, Le Petit Prince. C'est assez traditionnel. C'était un spectacle de marionnettes. Donc, c'était absolument génial. Et j'ai aussi un très bon exemple. On a une troupe de Kryvyi Rih. Ils ont pris un auteur français qui a exprès écrit une pièce pour leur théâtre. Une petite pièce qu'ils nous ont montrée.
Et pour vous, quel est l'avantage du théâtre dans la classe de français?
Je pense que ça aide énormément à se maîtriser, à maîtriser la langue. Je fais un peu des pratiques théâtrales en classe avec les étudiants, comme je suis à l'université. Et ils adorent ça. Ils s'ouvrent, même ceux qui ont peur de parler, oui, qui sont coincés. Avec le théâtre, c'est beaucoup plus facile de les faire s'ouvrir et casser cette barrière si tu as peur de parler.
Éric Pessan, vous êtes l'auteur de nombreux romans, mais aussi de romans jeunesse et puis de pièces de théâtre. Vous pensez que c'est un bon outil, le théâtre, pour apprendre le français ?
Bien sûr, c'est un bon outil pour apprendre le français, que l'on soit d'ailleurs à l'étranger ou que l'on soit même francophone. C'est un outil la littérature, le théâtre sont des outils pédagogiques merveilleux.
Mais parce que ça passe par l'expérience, par le corps aussi, c'est ça le théâtre.
Parce que ça, oui, le théâtre passe par le corps, passe par la voix, oblige à dire, oblige à prononcer. L'écriture oblige à comprendre un peu comment est fabriqué un texte, bien plus que de façon théorique. Donc tout ça, c'est des outils merveilleux.
Mais, Absolument. Mais pour vous, écrivain, quel est l'intérêt finalement de participer à des projets pédagogiques comme ceux-ci? Parce qu'on pourrait penser que ça vous détourne de votre propre écriture et que finalement la diffusion du français comme langue internationale n'est pas forcément vos préoccupations.
Non, c'est pas moi. C'est, évidemment, c'est pas ma préoccupation directe. Moi, ma préoccupation, lorsque j'anime ce genre de choses, c'est de permettre de diffuser cette idée que la littérature on peut s'en emparer, on peut faire avec, elle peut nous accompagner, elle peut nous servir, elle peut être là, elle peut être notre j'ai envie de dire notre allié. Voilà. Et ça m'intéresse. C'est un objectif de transmission qui me semble absolument capital.
Alors autre illustration des initiatives prises en Ukraine, par exemple, ce sont les camps d'été organisés par une ONG et animés par des bénévoles. Les camps d'été, cette saison, et là, on est dans une démarche plus plurilingue.
Je m'appelle Inna Krulko, je travaille dans l'organisation non gouvernementale ukrainienne qui s'appelle Global Office. Vraiment, on conduit le projet de camp scolaire d'été. Donc, on invite les bénévoles du monde entier qui arrivent en Ukraine et enseignent le français, l'anglais et l'allemand partout dans les écoles ukrainiennes. Les bénévoles sont très, très différents et ce ne sont pas juste les professeurs de français, par exemple. Ce sont les gens des pays différents, de nationalités différentes, de l'âge différent, aussi les professions différentes, que c'est peut-être les étudiants ou les personnes retraitées. Ils partagent leur expérience, leur histoire de la vie, parce que la plupart des enfants qui habitent en Ukraine dans les petites villes et villages n'ont pas eu la possibilité de rencontrer avec les personnes d'autres pays. Et les bénévoles motivent les enfants, pas juste pour apprendre les langues étrangères, mais aussi découvrir le monde, voyager et créer l'ambiance multiculturelle en Ukraine.
Et ces camps ont lieu partout en Ukraine, dans des petites villes, petits villages. Donc c'est pour les bénévoles aussi une immersion finalement dans peut-être des parties d'Ukraine qu'ils n'auraient pas rencontrées autrement.
Oui, c'est vrai, parce que les bénévoles ouvrent l'Ukraine, la vraie vie ukrainienne, les traditions, la vie quotidienne d'Ukraine. Et quand les bénévoles arrivent en Ukraine, ils ont la formation de 3 jours. Ils apprennent l'ukrainienne de base, les questions de travail avec les enfants, parce que partout les bénévoles ont la formation pédagogique, par exemple.
Et l'idée, c'est que chacun enseigne un petit peu sa langue alors, mais propose aussi d'autres activités sportives, linguistiques, c'est ça?
Oui, le programme de notre CAM est pas juste une langue étrangère. Une langue étrangère est juste l'instrument pour communiquer avec les enfants. Mais le programme est très, très intéressant. Par exemple, on a travaillé avec la compagnie Snapchat. Et c'est une compagnie américaine avec les applications numériques. Aussi, on a formé le programme de l'entrepreneuriat pour les dernière classe de l'école. Et aussi, notre programme a beaucoup d'autres activités intéressantes sur le domaine de citoyenneté pour les enfants, les objectifs de développement durable pour les enfants, le sport et santé, sciences, technologies, art et mathématiques. Donc, toutes les choses peuvent être utilisées dans le camp. Et ce sont les coordinateurs de camp, les professeurs qui s'occupent de la réalisation de camp avec les bénévoles dans les écoles.
Alors, ce que dit cette jeune femme est assez important, parce que par la langue, on découvre le monde. Éric Pessan, vous n'allez pas la démentir.
Ah non, absolument pas, évidemment. Le langage nous donne nos outils pour voir le monde, pour le penser et aussi pour le ressentir de manière sensible.
La diffusion du français comme langue internationale, Marie-Charlotte Baoudour, Éric Pessan disait que c'était pas sa principale préoccupation, mais que quand même ça comptait quand on est un écrivain. Il faut quand même préciser qu'il y a une politique linguistique en France et qu'elle est portée notamment par l'Institut français et donc par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une affaire sérieuse.
Oui, absolument. L'Institut français participe au plan présidentiel pour la langue française en développant, nous développons en fait tout un ensemble de programmes qui visent à soutenir l'apprentissage du français dans le monde et notamment, plus précisément aussi, à proposer un environnement culturel francophone aux apprenants du français. Via...
C'est ce qui s'appelle le soft power en français dans le texte.
Oui, ça pourrait, oui, tout à fait, ouais. En français, ouais.
En français. C'est-à-dire que plus on parle français et plus la culture, les valeurs de la France et une certaine conception du monde peut s'exprimer.
Oui, oui, absolument.
Alors, je disais en début d'émission, Déborah, que vous aviez mis les bouts à Kiev. Je suis sûr que nombre d'auditeurs attendent des explications. Eh bien, c'est la puce de Lucie Bouclou.
La puce à l'oreille.
Bonjour Pascal.
Bonjour Lucie.
Alors aujourd'hui, la puce vous propose de mettre les bouts en compagnie du linguiste Jean Pruvot et des CP-CE2 de Delphine Pereira-Souza de l'école Saint-Ouen à Paris. Mettre les bouts, mais au fait, de quel bout s'agit-il et que veut dire cette expression? Nos apprentis linguistes nous mettent sur la piste. Tendez l'oreille.
Ça veut dire peut-être que tu tombes dans la boue,
mettre le feu ou t'allumes une bombe dans une maison et après elle prend feu.
Ça veut peut-être dire par exemple manger une pizza, j'ai pas fini, du coup c'est les bouts, c'est les restes de la pizza, du coup je mets dans un frigo.
Bah par exemple s'il y a quelque chose qui t'énerve, par exemple ton chien, t'es à bout de ton chat, ça veut dire que tu le mets dehors, ça veut dire que c'est fini avec lui quoi. T'es à bout quand tu mets les bouts.
Mets les bouts d'un papier à la poubelle.
Mettre à bout, ça veut dire d'ailleurs le au bout, très loin, tout au bout.
Fais plus vite la chose que t'es en train de faire. Quelqu'un dit ça et tu dois faire plus vite la chose que t'es en train de faire.
Par exemple, je fais une course de 30 km et bah je mets les bouts, ça veut dire je vais pousser mes limites.
Ça me fait penser à quand quelqu'un il met quelqu'un d'autre à bout de nerf, par exemple.
La
puce à l'oreille.
Alors Jean, encore beaucoup d'imagination là chez
ah
nos...
Ah oui, moi je suis émerveillé à chaque fois. Hein.
Chez nos petits parce élèves, ouais.
Mine de rien, à eux tous, ils retrouvent à peu près. Il faudrait mettre un peu d'ordre et après on arrive à trouver.
Alors c'est quoi l'origine de cette expression « mettre les bouts » qui veut donc dire « s'en aller, s'enfuir ».
Oui, c'est ça. Alors en fait, les bouts, c'est une reprise du bout du corps, c'est-à-dire on a en haut les bras et en bas on a les jambes. Alors il faut aussi dire...
Donc les bouts, ce sont les bouts de bois.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et que c'est quand même une expression qui est relativement récente parce que on avait auparavant mettre les baguettes, mettre les bois,
mettre ses cannes.
Mettre les cannes, alors mettre les bambous. Donc si vous voulez
alors c'est... les bambous c'est un petit peu moins usité, autant les cannes.
Oui, enfin ça dépend de l'endroit où on se trouve.
Des caniers.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, l'expression consacrée, c'est mettre les bouts. Mais mettre les bambous, bon, se disait plutôt dans le français d'Afrique, où il y a des bambous, ou alors dans le Midi. Mais c'est quelque chose qui est aussi synonyme avec prendre la poudre d'escampette, par exemple. C'est assez joli.
Alors, on ce prend la poudre s'échappait. D'escampette, on décampe, on se carapate.
Oui, j'aime beaucoup se carapater. La poudre d'escampette, ça vient de « escape ». Donc, mot français d'ailleurs au début, s'échapper.
Se calter.
Ah, se calter, ouais, avec l'idée de cale aussi, de partir très vite.
C'est-à-dire bon. Comme si on enlevait la cale et que du coup on partait à toute
vitesse. Oui, c'est possible, je n'en jurerai pas, mais il y a ça, parce qu'il y a se casser aussi. Alors là, c'est très familier. Hein.
Ouais. On joue la fille de l'air.
Ah oui, ça c'est très joli. C'est aussi comme mettre les voiles.
Mettre les voiles, oui.
Un bateau, donc. Se faire la malle. La malle, c'est un bateau au départ aussi. Hein. Ou faire ses valises, quoi, très vite. Donc, on est là dans toute une série de choses qui sont, dans le fond.
On prend ses jambes à son cou.
Oui.
Il y a une idée de précipitation, voilà. En fait, prendre ses jambes à son cou.
Voilà. Et.
Mettre les bouts un peu moins.
Un
me
peu
semble-t-il.
Moins. Alors, on peut le dire familièrement aussi. Oh, je suis fatigué, hein, je mets les bouts. Ou alors, je vais dire, là, il a mis les bouts parce qu'il y avait danger, hein, il pouvait pas rester sur place. Donc, mettre les bouts a quand même une petite variante possible.
Et puis, c'est une expression qu'on entend encore.
Oui, bah, parce que, quand même, tout ça résonne. Et il y a quelque chose, bah, qu'il faut absolument conserver. C'est délicieux, quand même.
Alors, en Espagne, on met les pieds dans la poudreuse, un petit peu comme cette idée de poudre d'escampette.
Exactement.
Au Portugal, on donne de la semelle.
Tout à fait, oui.
En Italie, on lève les talons, quand chez nous, on tourne les talons.
Oui.
Et aux Pays-Bas, on prend ses joncs, ce qui est un petit peu la même idée,
oui,
en fait,
c'est ça,
que
c'est ça.
Mettre les bouts, prendre ses cannes.
C'est presque une question de climat. Là où il y a des bambous, on prend ses bambous. Et puis, bah, mettre, évidemment, les joncs, c'est assez délicieux aussi.
Eh bien, merci Jean Pruvot de ne pas avoir décanillé et d'avoir une fois de plus répondu présent à la puce. Pour ceux qui ont dû se tailler avant la fin de la chronique, pas de panique, puisqu'ils pourront la réécouter soit sur la page Facebook de l'émission de Vive Voix, soit sur la page de RFI Savoir à la rubrique de la puce à l'oreille. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre dernier ouvrage « Les secrets des mots » paru aux éditions de la librairie Vuibert. À très bientôt, Jean.
Merci, Lucie.
Merci, merci. La compréhension, Éric Pessan, la compréhension des expressions populaires fait partie de l'enseignement du français.
Bien sûr, et c'est formidable cette chronique parce que justement c'est ça qu'on a parfois un atelier d'écriture aussi, une mauvaise compréhension qui va créer de la poésie. Et là, je ne suis pas professeur, je suis écrivain et je suis ravi lorsque parfois un très léger malentendu réinjecte de la poésie dans la langue.
Et puis la langue peut s'inventer aussi par ses expressions populaires. Marie-Charlotte Baoudour, prochaine destination, vous mettez les bouts où ?
Au Portugal.
Au Portugal pour des journées encore de profs de français.
Oui, en partie, et leur présenter Culture Tech.
Et puis il y a le congrès des profs à Dakar la semaine prochaine.
Voilà, nous Déborah. À RFI Savoir, on part à Dakar.
Merci à tous, merci Éric Pessan, merci Déborah. Comment dit-on merci en ukrainien ?
Diakouyo.
Bravo, et bien sûr une seule adresse, rfi.fr, ou alors savoir.rfi.fr, ou celle de la Culture Tech, culturetech.com, le site est en français et en anglais. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Louise Calédec, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.